mardi 7 octobre 2025 cap sur la désignation du duo présidentiel du parti Les Démocrates, un sujet brûlant car à quelques jours du Conseil national du 11 octobre, la tension monte. Qui représentera le principal parti d'opposition à la présidentielle de 2026? Les candidatures se multiplient. Ange Taïeo Kokodé, Nourou Dine Saka Salé, Éric Rondété et bien d'autres cadres du parti ont déjà déposé leur dossier. C'est donc une semaine décisive pour les démocrates et peut-être pour tout le paysage politique béninois. Pour en parler, place maintenant à notre débat regard croisé autour des grands as, le processus de désignation, les critères du choix et les enjeux politiques. Et je suis toujours avec les collègues en studio, Paco Vaudion, à nouveau bonjour.
À nouveau bonjour Bernice et bonjour à toutes les belles femmes à l'écoute ce matin.
Landré Koutangi, à nouveau bonjour.
Bonjour Bernice.
Comme je l'annonçais, nous allons parler de la désignation du duo présidentiel du parti Les Démocrates pour les élections de 2026. Par contre, Vaudion, dites-nous le mode d'appel à candidature et les conditions fixées par le parti vous semble-t-il transparent et inclusif?
Oui, je pense qu'à première vue, on pourrait quand même dire que c'est un mode quand même, le mode d'utilité, en tout cas, auquel le parti a eu recours, est un mode qui, a priori, nous montre que le travail, le processus est assez transparent. Parce que quand on publie les conditions de candidature, c'est connu par tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on demande aux gens de venir déposer juste un CV, et puis après, la commission s'assoit, travaille, sans qu'on ne sache sur quelle base. Donc aujourd'hui, je pense qu'à partir du moment où même c'est même pas rendu public au sein même du parti, mais je pense que c'est devant l'opinion nationale et internationale, tout le monde sait les critères qui vont diriger la désignation du duo. Donc à partir de ce moment, on pourrait quand même dire que le processus est assez transparent parce qu'on connaît les conditions, on sait ce que vous devez déposer en termes de caution, on sait ce que vous devez déposer en termes de dossier, et puis sur quel levier est-ce qu'on pourrait agir effectivement pour que les gens, pour qu'on puisse désigner le duo, même si d'autres personnes estiment que certaines conditions sont assez orientées, ou même il y a débat autour du comité ad hoc qui a été mis en place et tout ça, mais je trouve que pour l'essentiel, le processus est assez transparent.
D'accord. Landré Koutangi, la même question pour vous. Est-ce que le mode d'appel à candidature et les conditions fixées par le parti vous semble-t-il transparent et inclusif?
Oui, tout à fait. Parce que vous savez, le parti Les Démocrates, c'est un parti qui est régi par des règles. Et je pense que depuis la création de ce parti, il y a les responsables au niveau du parti qui ont quand même choisi ou bien qui veulent que en tout cas le parti, les militants au sein de ce parti, que chacun puisse respecter les règles au sein de ce parti. Donc moi je vois que en tout cas ce mode de désignation, ce processus de désignation du duo candidat, en tout cas c'est tout à fait légitime car cela va quand même permettre à chaque militant de se retrouver parce que vous voyez lorsque ce parti avait lancé, c'est un appel à candidature et il y a une commission qui a été installée pour pouvoir étudier tous ces dossiers. Donc il y a aussi des montants qui ont été fixés. Donc je pense que si aujourd'hui le parti arrive à mettre en place tous ces critères-là, c'est quand même pour que chacun puisse se retrouver, que après qu'on ne dise pas que bon j'ai donné telle somme ou bien j'ai déposé mes dossiers, je ne me retrouve pas dedans. Donc je pense que c'est tout à fait légitime. Le parti a ses règles et je pense que c'est quand même pour la transparence des élections à venir, et c'est pas seulement pour le duo pour la présidentielle, il y a aussi pour les communales. les municipales à venir pour le 11 janvier 2026. Chacun aura déposé son dossier et il y aura une commission qui va étudier ces dossiers. Les candidats seront convoqués pour un entretien. Donc, je pense que tout est structuré au sein de ce parti afin que qu'on ait quand même des élections libres et transparentes dans au sein des partis les démocrates.
D'accord, Landry. Pas comme le calendrier fixé, avec un verdict très attendu dès le 11 octobre, est-il réaliste?
Oui, je pense que c'est... Est-ce que réaliste ou non, je pense qu'il reviendra au parti de pouvoir en décider. Parce que sur le parti quand même qui sait que depuis la révision du code électoral, on connaissait pratiquement déjà les différentes dates les différentes dates par rapport au dépôt des candidatures, par rapport aux dates où le scrutin va se dérouler, tout ça. On avait déjà tout le calendrier. On a également vu la Sénat récemment également qui a sorti tout le calendrier de tout le processus. Donc, je ne pense pas que le parti ait été forcément surpris pour qu'on nous dise non. On vient d'apprendre que la clôture des dépôts des dossiers est fixée au 14. Et c'est à partir de ce moment-là que le parti maintenant se met à courir, je ne pense pas. Donc, quand on regarde cette réalité-là, je ne dirais peut-être que pour nous qui ne sont pas militants de ce parti-là, ou même pour des personnes extérieures au parti, ils peuvent estimer, ils sont en droit même d'estimer que le délai est assez court pour pouvoir faire un travail assez sérieux, assez minutieux pour qu'on puisse en ressortir un duo assez crédible. Mais je pense que pour ceux qui sont à l'interne, ils ne sont pas surpris. Même les personnes qui sont allées déposer leur candidature.
Pourquoi attendre tout ce temps avant de lancer l'appel à candidature? Le parti pouvait quand même lancer l'appel à candidature depuis un moment, mais on a vu que le parti a attendu les derniers moments, puisque la clôture, selon le calendrier de la Sénat, c'est le 14 octobre.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. On dit la même chose. Nous, ça peut nous sembler assez long, mais ceux qui sont à l'interne du parti, je ne pense pas. Parce que ils se sont assis, ils ont travaillé sur ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu sortir. Si le parti, ceux qui vont faire le travail, estiment qu'en 2 semaines, ils peuvent nous sortir un résultat assez potable, car cela ne tienne. Moi, je me demande, le moment n'est pas forcément le problème. Et puis, il faut quand même voir un peu les difficultés que ce parti-là a eu pendant les autres élections. D'abord même la naissance du parti, et je pense que avec la loi qui permettait, en tout cas je pense le système partisan, il fallait mettre le nouveau parti au goût du jour et tout ça. Donc le parti politique, ce parti politique là s'est créé après, en tout cas les dissidents du parti FCBE sont allés créer le parti démocrate. On a vu toute la difficulté qu'ils ont pu connaître, qu'ils ont pu avoir, non seulement pour avoir le récépissé d'abord du parti, je pense que ça a duré près de 8 mois, même pratiquement un an, si mes souvenirs sont encore bons. Alors que logiquement, je pense que dans les délais étaient beaucoup plus resserrés que cela. Je pense que c'était autour d'un mois, tout au plus autour d'un mois. Vous aurez pu avoir le récépissé de votre parti, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont pratiquement attendu près de 8 à 12 mois avant d'obtenir d'abord le récépissé. Donc, quand c'est fait comme ça, ce n'est pas un parti ordinaire. Ce n'est pas un parti qui fonctionne comme les autres. Après le récépissé, on a pu voir en 2021 combien de fois il a été difficile. Même aujourd'hui, la candidate qui a été désignée par le parti pour porter les couleurs de ce parti-là en 2021 est actuellement en prison. En 2023 pour les élections législatives également, on a pu voir ce qui s'est passé. Combien de fois ça a été difficile pour les candidats de ce parti-là d'obtenir les différents documents qui devaient leur permettre de pouvoir déposer les dossiers au niveau, comme je parle du kit fiscal par exemple. Ça a été assez difficile parce que à partir de ce moment-là, quand on a vécu toutes ces expériences, je pense qu'il faut forcément tirer le son. Est-ce qu'il fallait sortir plus tôt le candidat, le duo candidat qui va, je pense que c'était pas ça le défi, parce qu'il pouvait le sortir à tout moment, mais est-ce qu'il fallait le sortir plus tôt et être confronté aux mêmes difficultés, parce qu'il a fallu l'intervention de la Cour constitutionnelle aux élections de 2023 pour que ce parti-là soit qualifié. Et puis il a été dit que ce n'est même pas la liste originelle déposée par les partis au niveau de la Sénat qui a été considérée. Donc à un moment donné, on a dû retoiletter encore la liste, la liste déposée par le parti, parce que certains membres en temps n'avaient pas eu le quitus fiscal. Il y avait beaucoup de conditions. Donc on a retiré certaines personnes qui étaient auparavant positionnées par le parti. Du coup, je me dis que le parti a tiré force leçon de toutes ces différentes situations et a dû attendre. Parce que quand vous voyez même dans la liste des pièces à fournir pour candidater à la candidature pour les élections présidentielles, par exemple, il est demandé à ce que le candidat puisse réunir toutes les pièces possibles. Donc, toutes les pièces demandées par la Sénat pour que le candidat soit éligible. Donc, je me dis qu'ils ont tiré leçon de toutes ces histoires-là. Et vous le savez, par rapport au quitus fiscal, la plateforme a été ouverte, je pense qu'il y a à peine 2 semaines, il n'y a pas si longtemps que cela. Donc, vous imaginez que le candidat propose, sorte la liste de son duo, et le duo qui va représenter le parti, et que du jour au lendemain, on se rend compte que le quitus fiscal de ce duo-là est bloqué encore au niveau de la Sénat, on n'arrive pas à s'en sortir. Pour les élections passées, par exemple, je pense qu'il y avait Patrick Divor qui s'est retrouvé finalement où le fisc lui demandait de payer un montant de près de 2 milliards. Donc, je pense qu'il était autour de 800 millions comme ce qu'il devait payer, comme ce qu'il devait au fisc avant d'obtenir son quitus fiscal. Donc, vous imaginez que le parti sorte son duo et que du jour au lendemain, il n'arrive pas à rassembler les différentes pièces parce que peut-être à cause des stratégies politiques ou des stratagèmes que l'autre camp aurait mis en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le processus électoral en 2020, on a pu arrêter le processus, aller modifier les lois pour que on puisse les appliquer. En 2019, par exemple, on a dû sortir du chapeau du chef et un document qu'on avait appelé certificat de conformité. Donc, quand vous êtes en face de ces mêmes acteurs-là, qui sont redistribués dans tout le système, dans toute la machine électorale, je pense qu'il y a de quoi apprendre des précautions. Donc, ils ont pris moi je me dis, c'est à cause de toutes ces situations vécues, toutes ces péripéties-là. Aujourd'hui, ils ont tiré le leçon et se disent, on sort le candidat à la dernière minute, et on s'assure, effectivement, que celui qui sera porté par le parti est celui qui déjà, a priori, a rempli toutes les conditions. Donc, je pense que s'ils le font ainsi, c'est forcément à cause des situations qu'ils ont tirées. Donc, on peut comprendre que le délai, il est assez resserré, mais je pense qu'il n'est pas aussi brutal que cela.
D'accord. Landry Coutanier, selon vous, est-ce que vous pensez qu'un travail potable sera fait durant ce délai? Parce que le parti a clôturé les dépôts de candidature depuis le 4 octobre et cette semaine, c'est la dernière semaine pour la désignation. Selon les informations, 35 dossiers ont été enregistrés, même s'il y a certains qui ont désisté au dernier moment. Est-ce que vous pensez que ce comité-là pourra faire un travail potable durant ce court délai-là?
Oui, le comité qui est mis en place, hein, je pense que c'est la commission qui est chargée d'étudier les dossiers. Je pense qu'il y aura un travail qui sera fait, un travail de qualité qui sera fait pendant l'étude des dossiers. Et vous le savez, aujourd'hui, si nous prenons un peu le parti, en tout cas, ils se sont quand même organisés pour pouvoir nous dévoiler le duo candidat. Donc moi, je vois que le parti attend le bon moment pour pouvoir créer la surprise. Bon, vous-même, vous voyez tout ce qui se passe après la désignation par les deux blocs de la mouvance et les tractations, les agitations que nous constatons de part et d'autre. Et vous voyez d'où est-ce que le parti, les démocrates, hein, d'où est-ce que ce parti-là a pu les étapes que le parti a franchies jusqu'à ce niveau. Donc il n'est pas bon de faire les choses dans la précipitation. Donc en tout cas, selon les responsables, je pense que cette commission là aura quand même à travailler, à étudier les dossiers. Et vous-même, vous allez constater que tout dernièrement, il y a les responsables au sein de ce parti ont mis en place un cadre. Ils ont acheté des matériels qui vont quand même permettre à ces responsables là, à la commission, j'allais dire à la commission, de d'étudier les dossiers. Donc moi, je vois que le travail sera fait et ça ne revient pas. La commission va faire son travail, mais déjà, ces candidats-là qui ont déposé leur dossier, je pense que lorsqu'on parle d'une élection, ça se prépare. Ça se prépare lorsque vous prétendez être candidat à une élection, que ce soit présidentielle ou bien municipale, vous devez vous préparer. Donc, vous aurez un projet de société à défendre. Donc, je pense que tout ça là entre en ligne de compte, hein, dans le travail qui sera fait par la commission en charge de l'étude des dossiers au sein du parti les démocrates. Donc je vois que si il y a des candidats qui remplissent les conditions, ils seront quand même retenus par la commission. Ils seront quand même retenus par la commission. Bon, je pense que après tout c'est un duo candidat que qu'on veut présenter. Mais déjà, si on juge que votre dossier est un dossier digne du nom, un projet de société qui peut quand même faire l'affaire, je pense que pourquoi pas ne pas désirer. Bien vrai qu'on a une trentaine, de 35 candidatures enregistrées. En tout cas, chacun aura à défendre son projet de société. Je pense que les entretiens ont démarré depuis hier. Donc, je pense que la commission en place fera son travail et on attend voir le duo qui sera quand même dévoilé pour la présidentielle. Je pense que ce sera la même chose également pour les élections municipales et communales. Communales à venir, chacun va déposer son dossier. Il y aura la commission va étudier. Donc je pense que aujourd'hui le parti les démocrates est sur le point quand même de nous dévoiler de bons candidats pour donc c'est pourquoi je disais à l'entame que ils sont en train de vouloir jouer ou bien ils sont en train de créer vouloir nous créer la surprise. Donc on attend voir. La commission fera son travail. C'est des gens qualifiés qui sont quand même déployés pour pouvoir faire le travail.
D'accord. Oui. Par contre, Vaudion, parlant de cette commission qui est chargée de faire le travail, est-ce que la commission vous inspire? Est-ce que cette commission qui est chargée d'examiner les dossiers vous inspire réellement pour le travail, pour un bon travail?
Est-ce que la commission vous explique qu'on fasse? Non, ce n'est pas une question de moi, mais je comprends votre question. Est-ce que, parce qu'il y a également débat, même au sein du parti ou même à l'extérieur.
Parce mais que beaucoup la constitution beaucoup plus, de cette commission-là voilà. Crée aussi débat au sein du parti.
Oui, mais je pense qu'un peu moins au sein du parti qu'à l'extérieur. Il y a que des personnes qui sont beaucoup plus externes au parti, qui trouvent que le parti est beaucoup plus proche d'un camp ou d'un autre, parce que faut pas le nier également que dans ce parti, il y a d'une manière ou d'une autre des courants, parce que vous voyez, depuis que la clôture des dépôts des dossiers au niveau des commissions, il y a quand même des groupes qui se battent. Pour que vous avez vu dans la presse aujourd'hui qu'il y a certains partis qui communique beaucoup pour que telle personne, tel candidat serait beaucoup plus pour le candidat de l'union, le candidat de l'unité, telle personne a les bons profils et tout ça. Donc je me dis qu'à l'interne il y a des personnes qui ont des préférences. Donc on peut estimer que tel autre membre qui est dans la commission est beaucoup plus proche de tel autre par rapport à tel autre. Donc pour moi il y a pas de soucis. Je pense que c'est de l'ordre naturel des choses. Mais quand vous voyez un peu la composition du parti, je pense qu'ils ont fait quand même l'effort d'être le plus centriste possible. Parce que quand on prend la commission, je pense qu'il y a 15 personnes par commission. Il y a deux commissions qui ont été installées. Je pense qu'il y a une commission qui va s'occuper des dossiers des présidentielles et législatives. Et la deuxième commission va s'occuper des dossiers des élections pour des élections communales. Mais quand on prend la composition de ces différentes commissions, on se rend compte que dans chaque département, on en a 12. Donc, au niveau de chaque coordination départementale, ils ont pu désigner un membre, dans chaque département, on a pu désigner deux personnes pour que il y ait un qui soit au niveau de la première commission et l'autre au niveau de la seconde commission. Et maintenant, je pense que le secrétariat exécutif a un membre qui désigne, le président du parti désigne son représentant au sein des différentes commissions, et puis je pense qu'il y a une commission encore qui désigne. Donc, ils sont au total 15. Donc, ils ont fait l'effort quand même de qu'on peut se retrouver tout le département et puis les structures du parti à l'intérieur de ces différentes commissions-là. Donc, je pense que le travail va se faire. Pour moi, est confiance ou pas confiance, je pense que c'est le parti qui a structuré ces choses de la sorte. Et si les gens ont décidé d'aller déposer les dossiers, je pense que pour ceux qui ont déposé les dossiers, ceux qui vont voir les dossiers étudier, s'ils acceptent d'aller déposer les dossiers, malgré la composition de cette commission-là, je pense que c'est parce qu'ils font un minimum de confiance à cette commission pour que le travail se fasse. Et comme je le dis, depuis hier également, j'ai déjà commencé par voir la plupart des personnes qui ont dessus sur le profil Facebook, en tout cas les ressources de certains candidats à la candidature, ceux qui ont déposé les dossiers. Le candidat du Congrès national est mon candidat. Lorsque les gens commencent déjà à parler, comme je disais tantôt, je me dis, ils sont 734, mais à l'intérieur, est-ce qu'ils sont tous animés par la même ambition d'aller aux élections présidentielles? Pour moi, ça peut relever également de la stratégie. Plus ils sont nombreux, plus ils donneront du travail à ceux qui sont peut-être à l'extérieur du pays. parti ou même à l'intérieur du parti qui veulent déstabiliser. Parce qu'il y a ça aussi. Vous voyez aujourd'hui, le candidat à la mouvance présidentielle est connu, mais vous avez vu l'engouement qu'il avait au début, lors de la, je pense que le 30 août dernier, quand sa candidature avait été révélée au public, jusqu'à à son investiture, on se rend compte quand même que désormais, les langues, certaines langues ont commencé déjà par se délier. Je ne dis pas qu'on veut déstabiliser le candidat, mais on sent que, quelque part, il y a du travail qui a commencé, il y a du travail qui a commencé sur le terrain par rapport au profil. Donc, par rapport à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc, le travail va continuer par se faire, mais je me dis, jusqu'à présent, comme je le dis, c'est un parti qui a reçu beaucoup de coups, désormais qui a décidé de travailler un peu, de ne plus laisser ses cartes aussi ouvertes à tout le monde. En tout cas, pas à cette étape de la situation. Donc, laisser mettre beaucoup plus le suspense autour de ce qui est en train de se faire. Je pense que avant, et en 2021, je pense qu'il y avait à peine 2-3 duos, il y avait 3 ou bien 6-7 personnes seulement qui ont pu déposer, mais ça se voyait clairement que il y avait des candidatures qui se dégageaient beaucoup plus aisément. Et vous avez vu que ça a été facile pour les gens, pour le camp d'en face de deviner ce qui pourrait arriver. On a pu voir, je vais plus revenir sur l'histoire, mais on a pu voir comment ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, vous en avez, on veut désigner 2 personnes parmi 34. Même si vous voulez utiliser les mêmes stratagèmes, les mêmes stratégies pour déstabiliser le parti ou déstabiliser tel ou tel autre candidat, je pense que vous avez beaucoup de travail à faire et dans un état de temps assez rétréci aussi. Parce que les gens ils ont fini de déposer les dossiers. Donc, vous aussi, vous allez travailler 2 semaines pour pouvoir peut-être identifier à qui vous aurez entre griffes. Je ne vais pas dire créer des problèmes, mais contre qui vous allez pouvoir mettre en place une stratégie pour que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que dans cet espace de temps assez court, pour moi, aujourd'hui, je pense que les instances du parti, c'est plus ou moins clair dans leur tête. C'est ce que je pense, c'est ma lecture. C'est plus ou moins clair dans leur tête que avec tel ou tel autre candidat, les choses pourront bien se faire. De toute façon, ils n'ont pas à jouer sur beaucoup de choses pour pouvoir désigner les candidats. Si un candidat joue sur l'expression de crédibilité du candidat et sa capacité à mobiliser autour de lui, je pense que ça serait largement suffisant. Et je le dis encore une fois, je pense que dans cette liste, beaucoup de personnes essaient beaucoup plus de prendre de l'avance par rapport à la confession des listes pour les prochaines législatives que beaucoup plus être candidat pour les prochaines élections présidentielles.
D'accord, Landry. Landry, parlons des critères de choix du candidat. Quel critère doit primer selon vous? Est-ce que c'est la compétence, la moralité, la représentativité? Parce que je crois que, par contre, vous disions dans sa chute à parler de la représentativité du candidat ou de la popularité.
Bon, vous savez, en tout cas, moi, je ne sais pas, en tout cas, les critères que le parti a définis, ces critères qui ont été communiqués aux différentes commissions en charge du dossier. Mais je l'ai dit, vous le savez, on parle d'une élection présidentielle, c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Et je pense que le parti a défini des critères qui seront quand même, et ces critères seront quand même pris en compte par les différentes commissions en charge du dossier. Donc moi je dirais que bon, en tout cas en termes de vous parler bien ces critères là.
Selon vous, qu'est-ce qui doit primer? Ce qui doit primer.
La représentativité. Vous savez c'est la compétence. Je dirais la compétence parce que lorsque vous êtes appelé à être candidat ou bien président de la République, je dirais que tout d'abord c'est la compétence. La compétence parce que la représentativité ou bien ne suffirait pas ou bien ne suffit pas pour ne suffit pas que afin que vous puissiez vous présenter. Je parle que la compétence doit être quand même quelque chose
doit être primé
parce que vous êtes quand même appelé à diriger tout un peuple. Donc vous en tant que candidat ou bien en tant que prochain président de la République, vous devez quand même disposer des bagages intellectuels. Et je pense que en tout cas il y a ces critères là qui ont été des critères qui ont été proposés par les responsables au sein de ce parti. Bon, bien vrai que vous allez voir qu'il y a des gens sains aujourd'hui qui ont quand même la réputation, tout ça là, ils sont connus de part et d'autre, mais je pense que ça ne suffit pas à être ou bien ça ne suffit pas seulement ça ne suffit pas afin que vous puissiez quand même briguer comment dire être sélectionné pour les élections à venir. Donc je pense que aujourd'hui déjà il faut déjà primer, en tout cas selon moi, sur la compétence de chaque candidat, parce que c'est une élection qu'il faut vraiment quand même prendre au sérieux. C'est un peu comme les élections que nous organisons, les élections municipales. Bon, pour les législatives, on peut comprendre, mais c'est une élection présidentielle. Il faut quand même voir les profils, hein, ces profils-là qui pourront faire l'affaire.
D'accord. Par contre, Vaudignon, oui, la même question. Quel critère doit primer? Il y a Landry Coutonin qui pense que il faut plus miser sur la compétence. Est-ce que vous partagez le même point de vue?
Oui, je pense qu'on peut pas quand même laisser les rênes du pays à quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas compétent. Il faut forcément que cette personne soit compétente. Mais moi, je mets au chapitre de tous ces critères-là, le critère de la crédibilité. Parce que si pour être crédible, il faut d'abord, je pense que la compétence y compris, la compétence, forcément, ça fait appel à la moralité du candidat. La moralité du candidat, les valeurs que défend ce candidat. Là-dedans, je pense que tous ces mots-là se retrouvent à l'intérieur. Également sa vision du pays, parce qu'on peut pas laisser les rênes du pays à quelqu'un qui n'a pas une vision assez claire. Si cette personne n'a pas une vision assez claire, ça peut aller au gré du vent et comme ça c'est assez dangereux. Donc pour moi, pour être crédible, il faut remplir tous ces critères-là, la compétence, votre moralité, les valeurs que vous défendez, votre vision, et mais également la parole que vous donnez. Parce que on se rend compte de plus en plus, comme on le dit, les promesses électorales, comme quelqu'un l'a dit, les promesses électoral n'engage que ceux qui y croient. Je pense que c'est dans nos pays qu'on entend de pareilles hérésies, parce que ailleurs, lorsque vous ne tenez pas vos promesses de campagne, ça peut vous coûter même vos sièges. Quand vous êtes dans un régime parlementaire, par exemple, ça peut vous coûter vos sièges. Aux États-Unis, par exemple, on a ce qu'on appelle les élections de mi-mandat, parce que vous avez fait campagne sur des thèmes, vous avez fait campagne sur un certain nombre de promesses que vous avez fait aux populations. À partir du moment où 2 ans après, lorsque la population commence par remarquer une certaine différence entre vos styles de gouvernance, en tout cas ce que vous pratiquez sur le terrain et les promesses que vous avez faites, lorsque l'écart est beaucoup plus grand, ils préfèrent confier faire contrôler le Parlement par le camp opposé, de sorte à pouvoir rééquilibrer les choses. Mais d'accord, chez nous, ce n'est pas forcément le cas. On n'aura pas des élections de mi-mandat pour permettre à cette personne-là de rééquilibrer la balance. Donc, ça va aller à volo 5 ans durant. Donc, pour moi, toutes ces conditions-là doivent être remplies. Quelqu'un qui respecte tout au moins c'est la parole qu'elle donne. Et l'autre chose, quand on tombe pas d'élection, c'est la capacité à pouvoir drainer du monde devant vous. Et pardon, pas du monde, mais des électeurs. Donc, la capacité à pouvoir mobiliser autour de vous. Si vous désignez un candidat qui lui est crédible mais qui ne peut pas mobiliser, je pense que c'est un échec garanti, parce que non seulement faut pouvoir mobiliser les électeurs, donc le peuple derrière votre candidature, mais également les acteurs politiques, parce que de tous les camps. Parce que si vous pensez, parce que là maintenant vous voyez, ils sont déjà 34, le duo qui va être désigné, dans 34 il va rester 32 autres personnes. Est-ce que ces 32 personnes là qui n'ont pas été désignées contrairement à vous, est-ce que vous arrivez d'abord à pouvoir mobiliser les énergies de ces 32 autres personnes avec vous? Maintenant, mobiliser au sein du parti, comme je disais tantôt, il y a des tendances forcément dans le parti. Il faut pouvoir mobiliser autour de vous également les différentes tendances au sein du parti, de sorte que le parti puisse être uni. Maintenant, d'accord, après ça, au-delà même du parti, il faut pouvoir mobiliser également à l'extérieur. Parce qu'on a pu voir quelqu'un le dit, telle personne est mon candidat parce que je trouve qu'il est beaucoup plus compétent, même si cette personne n'est pas soutien de la mouvance présidentielle. Donc, je pense que ça devait être également la même chose. Vous devez pouvoir mobiliser à l'intérieur du parti, mais également à l'extérieur, que ce soit même parce que dans d'autres partis, il va y avoir forcément des dissidents, des déçus, il faut pouvoir forcément les mobiliser.
L'émission matinale. Landry Coutan, une dernière question. Est-ce que vous pensez que le parti Les Démocrates doit miser sur la jeunesse ou sur les figures déjà aguerries politiquement? Parce que nous avons vu de l'autre côté, c'est un jeune qui a été désigné, choisi.
Vous savez, déjà, parmi les 735 candidats qui ont été enregistrés. Je pense que en tout cas celui-là qui a un peu, en tout cas l'air d'un jeune, en tout cas selon moi, je pense que c'est, il y a un ancien conseiller à la présidence, hein, un ancien conseiller de Boni Yayi, Dr Eric Adja. Je pense que en tout cas il fait partie aussi de ces jeunes-là. Bon, sur qui on pourra quand même, le parti pourra quand même compter pour les élections à venir. En tout cas les autres, hein, c'est des gens sans, quand même, hein, qui ont déjà fait un peu leurs expériences, hein. On connaît un peu leur force de frappe dans la politique. Il y a Eric Rouneté. Il y a aussi bien d'autres, hein, bien d'autres figures. Donc je pense que en tout cas on verra si le parti va quand même miser son choix sur la jeunesse, comme ce que nous avons vu au sein de la mouvance présidentielle.
Landry, merci. Par contre, vous disiez en quelques secondes, est-ce que le parti doit miser sur la jeunesse ou sur les figures politiquement déjà aguerries?
Non, pour moi, ce n'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse. Quand on regarde notre constitution, pour être présidentiable, il faut avoir entre 40 et 70 ans. Donc, le fait qu'on vienne se placé à l'extrémité 40 ans ou à l'extrémité 70 ans, pour moi, n'est pas là le problème. Le plus important, c'est qui est-ce que le parti désigne, qui, une fois peut-être, si le candidat arrivait à se faire élire à la tête de notre pays, va pouvoir permettre aux populations de pouvoir non seulement avoir les infrastructures, mais également à côté pouvoir profiter de la vie, parce que ça ne sert absolument à rien quand on nous chante la croissance à plusieurs chiffres et que du jour au lendemain, et que les populations n'arrivent même plus à pouvoir avoir le seul repas par jour. Donc pour moi, ce n'est pas une question de jeunesse, ce n'est pas une question de vieillesse, mais beaucoup plus une question de celui qui a une vision pour le pays, parce que jusqu'à présent, on n'a pas, je pense que même dans les débuts d'année, dans les débuts des indépendances, les présidents qu'on a vus, c'est pas des personnes qui avaient 70 ans, ce sont des jeunes également qui avaient pris le pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, on a pu voir les bases que ces personnes ont. Quand Soglo arrivait au pouvoir en 90, quel âge est-ce qu'il avait? Donc pour moi, ce n'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse.
Merci,
il faut trouver quelqu'un qui a un profil assez intéressant, des compétences qu'il faut et une vision pour notre pays. Pour moi, c'est ça le plus important.
D'accord. Merci Pacom Vaudion. Merci Landry Koutangi, la semaine qui s'ouvre est donc cruciale pour le parti. Les démocrates, entre ambition individuelle et impératif d'unité, le parti devra trancher avec lucidité. Le 11 octobre, la fumée blanche annoncera le duo choisi, mais surtout elle dira si les démocrates ont su allier maturité, cohésion et stratégie. Merci de nous avoir suivis. Bernice Koukoudjoui, Landry Koutangi, Pacom Vaudion. On se donne rendez-vous demain.